Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Merci. Il faut être très poli avec l'intelligence artificielle. On ne sait pas ce qu'ils vont nous faire. En général, mais ils sont tous connectés. Bien. Alors, hier, je vous ai demandé de réfléchir à quelques points. En utilisant la chanson de Francis Cabrel comme référence, nous souffrons des liens qui nous attachent, nous sommes des prisonniers de l'inutile. Lorsque l'on, ce matin, pendant, au terme de la méditation, au début de la méditation, nous avons récité ce texte, la tête, les jambes, etc., les pieds, la jambe, alouette, de la méditation. La première partie, c'est effectivement d'avoir vraiment une conscience de la souffrance qui naît de l'ignorance de l'esprit et de toutes les actions, les paroles, etc., qui sont accomplies, proférées sous l'influence de l'ignorance, et en particulier une sorte de premier jet de l'ignorance qui est la saisie dualiste et donc le renforcement d'un sentiment d'un soi prédominant et d'une importance supérieure à celle des autres. Et tant qu'on n'a pas pris la conscience de ça, de la souffrance de l'existence conditionnée, toute la pratique qu'on peut faire du dharma au travers de l'étude, de la réflexion et de la méditation va être somme toute entachée en quelque sorte de ce manque de reconnaissance première qui est vitale. Je le disais hier dans les enseignements du Bouddha les plus fondamentaux, les quatre nobles vérités. La première, c'est la noble vérité de la souffrance. Alors la souffrance, c'est toujours à me battre un peu avec les traductions parce que bon, les mots que nous utilisons dans notre langue sont chargés d'histoire. Et donc, on essaye d'adapter une culture, un mode de pensée, une langue différente à des mots qui existent déjà. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. En sanskrit, c'est dukkha. Dukkha, et l'inverse, la félicité, c'est sukha. Donc, ils ont un mot comme un ka. Et dukkha et sukha représentent les deux aspects. On pourrait dire la part lumineuse et la part d'ombre de nos expériences. Dukkha, littéralement, ou plutôt, c'est illustré dans la tradition védique, déjà, pas forcément uniquement dans le bouddhisme, comme une roue qui est embourbée. C'est-à-dire une roue qui a du mal à tourner. Donc, l'idée de dukkha, c'est que tout est pénible, tout est difficile. On est coincé, on est embourbé, on est collé. Et donc, on est dans un état où ça ne roule pas. Sukha, ça roule. Sukha, la roue est libre. On est vraiment là, on a la possibilité de bouger, la possibilité d'accomplir ce qui nous semble important. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir l'idée de souffrance, même si on la traduit comme souffrance. Mais parce que parfois les gens disent oh ben moi je souffre pas trop. C'est vrai, il y a des gens dont la vie est relativement confortable. Donc quand on leur dit oui mais prenez conscience de la souffrance, ben oui, oh ça va, hein? Comme un peu comme la grenouille dans la casserole qui est en train de chauffer. Oh, l'eau est tiède, ça va. Mais le fait que par exemple notre esprit est limité par exemple les conditions du corps, on ne peut pas aller dans le passé ou dans le futur, l'esprit peut, mais du fait du corps et de cette association du corps et de l'esprit dans l'existence qui est la nôtre, nous souffrons de limites, nous souffrons de la dégénérescence du corps, hein, toute personne qui a passé un certain âge se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans la tête, on a 20 ans ou 30 ans, et puis le corps, ben, il ne répond plus, il n'a plus envie de faire, enfin, il ne répond plus, c'est fini, quoi. Et donc là, il y a une grande souffrance, parce qu'il y a une opposition entre l'esprit qui est toujours vivant, qui est vif, parce que lui, il n'a pas d'âge, il a l'âge qu'on dit l'âge de ses artères, mais il a l'âge que le corps lui impose. Mais l'esprit en lui-même, il n'a pas d'âge. Hein, il est pas né, donc on ne peut pas lui donner d'anniversaire. Et donc, ça, c'est la souffrance qui est la nôtre. Et en fait, on se débat dans cette difficulté. La roue est embourbée, on n'arrive pas à tourner, etc. Ce qui fait que bah, quand on voit d'autres qui passent à côté de nous avec les roues bien libres, on est jaloux, on est énervé. Hein? Vous voyez, quand vous êtes dans les embouteillages, sur la route des vacances, avec les enfants derrière qui braillent, avec la canicule, et vous avez une roue crevée. Ce n'est pas le meilleur moment pour vous demander un truc. Hein? Et donc, toutes ces conditions créent une tension, une souffrance. Et c'est de ça dont on parle. Et en particulier, donc, celle associée à la naissance, à la vieillesse, la maladie, la mort. Et en particulier, l'association que l'esprit fait avec ce corps. Et Thich Nhat Hanh, dans un de ses textes, disait: Je ne suis pas ce corps qui vieillit. C'est comme un mantra, je ne suis pas ce corps, l'esprit n'est pas ce corps qui vieillit. C'est une association, mais ce n'est pas une fusion en quelque sorte, hein, puisque d'ailleurs au moment de la mort, les deux vont se dissocier. Donc voilà pour la souffrance. Après, si vous avez d'autres questions sur les spécificités de la souffrance, ben, on pourra en discuter. Mais j'aimerais bien revenir à la question d'hier, à la réflexion d'hier, si vous avez passé un petit peu de temps hier soir, prisonnier de l'inutile. En quoi vous vous sentez ou pas prisonnier de l'inutile? Et quels sont les liens qui vous attachent et en quoi cet attachement fait souffrir? Ça, c'est le diagnostic, je dirais. Une fois qu'on a établi le diagnostic, on peut commencer à voir les sources du problème. Et une fois qu'on a bien cerné les sources du problème, on peut commencer à voir, dans l'optique qu'il y a une possibilité de guérison, hein, bien sûr, mais on peut commencer à entrevoir peut-être une méthodologie, comment dire, un système de récupération de la santé naturelle de l'esprit, la liberté naturelle de l'esprit. Donc on va commencer par là. Donc aussi bien les amis en ligne que vous dans la salle, si vous avez des réflexion, ben vous êtes les bienvenus, ES.
Oui, je vais répondre pour moi-même. Je suis assez pessimiste dans ma réponse et dans le remède. Mais en fait, personnellement, ce qui me lie, ce qui fait poids, je parle pas de l'inutile parce que ta question aussi était qu'est-ce qui nous lie? En fait, c'est justement ce que tu disais, c'est que l'esprit, il est lié à un corps, à une incarnation, à une existence physique. Et finalement, tout ce qui me lie et qui, en quelque sorte, est un poids, c'est la peur. Et une peur générale qui se traduit par des petites peurs. C'est la peur vraiment de ne pas exister, puisque voilà, je suis née, j'existe, et j'ai peur de perdre cette existence. Et ça se traduit dans des peurs plus concrètes. Par exemple, j'ai besoin d'être en lien avec d'autres êtres, ma famille, des amis, et j'ai peur de perdre ces liens-là, parce que on n'est pas un animal solitaire. Voilà, dos plein, voilà, de regrets ou de tensions ou de soucis, besoin matériel d'assurer que quand je serai malade, que je peux avoir un médecin qui va bien s'occuper de moi, donc je dois avoir de l'argent pour un ostéopathe. C'est lié à des préoccupations matérielles, de posséder des choses, mais c'est pour assurer mon existence parce que j'ai peur d'avoir faim, d'avoir froid et d'être malade sans qu'on puisse me soulager. Et voilà, pareil, même sur un plan un peu plus professionnel, besoin de prouver qu'on a de la valeur. Je ne sais pas si on nous a appris ça ou c'est venu tout seul, mais d'être utile aussi, peur d'être inutile quand on... voilà, mais pour moi, tout ça, c'est des choses qui se... Une peur principale. Et pourquoi je suis pessimiste? Parce que justement, cet esprit dont tu parles, ben, il est quand même incarné en ce moment, pour moi, dans mon corps et mon existence actuelle. Et elle est tout ce qui compte, en fait. Je ne connais pas l'avant et l'après. Et c'est ça qui me lie. Et ce n'est pas forcément des choses inutiles. Elles sont peut-être inutiles, mais moi, mon être me dit non, 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 il faut que tu survives, il faut que tu sois bien.
Merci, merci Ilka. Je crois que c'est une très bonne analyse. Je crois que de façon un peu différente, les uns et les autres, les unes et les autres, on peut peut-être se retrouver dans ce que Ilka partage, non? Ouais. Alors, d'où vient cette peur? Je crois que c'est, t'as bien cerné ça. C'est-à-dire qu'il y a la peur mère et puis après il y a les enfants. Hein? Et donc la peur mère, c'est effectivement la peur existentielle du soi. La peur existentielle du soi qui, quelque part, pressent sa nature illusoire de façon confuse. Et donc, percevant cette nature illusoire de façon confuse, a un sentiment d'délitement permanent. Hein? Alors, que ce soit les capacités intellectuelles, que ce soit les capacités physiques, on constate avec effroi que les pièces tombent, les morceaux tombent. Et on est constamment en train d'essayer de regrouper tout ça, de ramener tout ça dans une sorte d'intégrité idéale. Et alors, ça part de ça, mais puis après, ça va comment dire, s'étendre. Parce que nous sommes un petit peu comme des chauves-souris dans une cave noire, dans une grotte noire. On crie pour que la roche nous renvoie un son qui nous permette de nous localiser. Hein? Et donc, on a besoin de l'environnement, des amis, de la famille. C'est pour ça qu'on crée des cercles comme ça, avec presque des vœux de fidélité. Hein, d'ailleurs, on dit dans le mariage ou dans la famille c'est important, etc. Parce que m'abandonnez pas, restez là. Et donc, on est prêt à subir toutes les pressions, les contraintes et parfois la violence des familles parce que il nous semble que être seul est encore pire que cette souffrance. Hein, c'est souvent aussi quand on est dans une relation toxique, ce qui se passe, où on préfère être dans la relation toxique que d'être dans l'isolement. Parce qu'il y a cette peur d'être isolé, d'être perdu, d'être abandonné, et constamment on voit les choses en nous et autour de nous qui s'effondrent. Alors, un, ce soi, il est illusoire, et quand je dis illusoire, il faut bien comprendre que je ne dis pas il n'existe pas. D'accord? Il n'est pas existant, mais il n'est pas inexistant. Donc, d'une façon relative, et aussi longtemps que nous le percevons comme tel, il a une réalité. Le corps, l'environnement, c'est une excroissance de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui s'engage dans un théâtre existant. C'est une projection, une excroissance de l'esprit. D'accord? Et cette excroissance de l'esprit vient de l'esprit. Donc, aussi longtemps que l'esprit est attaché à cette excroissance ou à cette projection, eh bien, cette réalité existe parce que elle semble nous apporter un semblant de sécurité dans cet délitement constant et répété de ce que moi je définis comme moi. Hein? Alors, le remède à ça, c'est de bien sûr contribuer à la création d'un environnement et d'un mode de vie qui soit le plus libre possible, le plus agréable possible, sans obsession. Ça veut dire qu'on est prêt à accepter ce que l'on ne peut pas éviter. Je crois que là, déjà, il y a une pression qui peut être relâchée, parce que si l'on souhaite être à 100% assuré, et que peut-être qu'on arrive à couvrir 50%. 50%, on peut se réjouir ou on peut se lamenter. Là, ça dépend de nous. Hein? Donc, être prêt à pouvoir aussi rencontrer la partie, on revient à ce que tu disais à propos de la faillite, ce qui nous semble être la faillite de l'effort du soi à rester ou à maintenir son intégrité contre la réalité qui est l'impermanence. Donc le deuxième point, ce sera de contempler de plus en plus l'impermanence. Hier, je disais le mot méditer en tibétain peut s'apparenter au fait de devenir familier de l'impermanence. Et c'est donc de commencer à regarder l'impermanence avec un regard différent. De voir que s'il n'y avait pas de changement, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas bouger, on serait figé dans une attitude, une pensée, une parole, depuis toujours et pour toujours. Donc je trouve que l'impermanence, parfois, a la mauvaise presse. Parce qu'on voit simplement ce qu'on m'ôte, ce que je perds, ce qui disparaît, etc., etc. Mais tout le reste, le mouvement, la liberté de mouvement, c'est dû à l'impermanence, parce que ou le transitoire, si on veut utiliser un autre mot. Donc de commencer à regarder cette impermanence, comment dire, de façon plus objective, et ne pas être sur le verre à moitié vide. Et de voir que, effectivement, il y a un verre dans lequel je peux verser de l'eau. Donc, l'impermanence, c'est vraiment important parce que quand on approche la philosophie bouddhiste, on nous dit, ah bah, le soi est une illusion, donc on entend ça n'existe pas, c'est pas ce qui a été dit, sinon on aurait dit le soi n'existe pas. Le soi est une illusion, c'est-à-dire qu'il apparaît, mais il n'a pas de réalité nucléaire permanente qui ne change pas. Ce sentiment soi est mouvant. Il se fait au travers de ce qu'on appelle les cinq agrégats, c'est-à-dire les perceptions, les sensations, etc. Et tout ça, c'est un agrégat, c'est-à-dire c'est des choses qui se rassemblent pendant un moment et puis qui disparaissent. Donc, à regarder l'impermanence et le changement, déjà on se détend. Et donc là, une des souffrances aussi qui est importante, après la souffrance du fait d'être conditionné, c'est la souffrance du changement. C'est ce qu'on illustre par la brûlure de la corde. Hein? Si l'on tient une corde dans sa main de façon très très serrée et que quelqu'un la tire, eh bien on se brûle. La corde n'est pas chaude, c'est simplement le fait de notre saisie sur un mouvement inévitable qui provoque la brûlure. Donc la souffrance du changement ne tient pas en fait au changement, mais tient plus au fait que nous sommes attachés à la stabilité des choses. On veut que les choses restent en l'état. Parce que la peur fondamentale existentielle de ce soi qui se sent constamment instable et mouvant. Et donc, lorsqu'on commence à regarder l'impermanence et qu'on accepte le flow, on accepte la danse, quelque sorte, des phénomènes, des pensées, des sentiments. On entre dans ce qu'on appelle un monde flottant, un monde mouvant. Et il y a moins de résistance. Et la souffrance naît de la résistance, du refus. Et le refus de l'impermanence, du changement, qui est une vérité fondamentale, universelle, est une source de souffrance infinie parce que, et en même temps, une source de revenus infinie pour toute l'industrie cosmétique. Hein? Parce qu'il y a un refus du changement. Et ça ne sert à rien, on ne va pas interrompre le changement, on va faire que souffrir du changement, l'ignorer, comment dire, le refuser. Donc, lorsqu'on commence à rentrer dans cette danse, on entre dans un monde beaucoup plus flottant, on devient beaucoup plus nomade que sédentaire, on devient beaucoup plus locataire que propriétaire. Les choses peuvent bouger et danser, et on peut danser et bouger avec le flow. Hein, si vous ne savez pas comment faire ça, vous demanderez à Michel pour vous montrer le tai chi et comment on peut rentrer dans physiquement, rentrer dans cet esprit du flow et de la gestion de l'acceptation de la réalité. Lorsqu'on commence à voir l'impermanence et le flow, on commence à voir les mécanismes d'interdépendance. On voit comment ceci amène cela, comment cette chose n'existe pas en soi en tant que telle, mais qu'elle existe comme conjonction, provisoire, d'un certain nombre de fils. On commence à voir les trames de la manifestation. On commence à voir la manifestation comme un, comment dire, comme une toile, avec des rencontres, avec des disparitions, avec des cessations et un constant changement. Comme disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne disparaît, tout se transforme. Ça s'applique tout à fait à l'impermanence et à la transformation. Quand on commence à voir le mécanisme de l'interdépendance, on s'approche beaucoup vraiment d'une réalisation, d'une compréhension intellectuelle de ce qu'on appelle shunyata en sanskrit, la vacuité. Le mot vacuité en français nous fait penser à rien, vide. Alors qu'en fait, c'est une ouverture avec tous les potentiels. Hein, ça n'a rien à voir. Mais quand on recherche la vacuité, alors on va faire zazen, mou, tout est vide, hein? Et on essaye de trouver le vide, et ben on trouve le vide, c'est-à-dire on trouve rien. On trouve rien et ça nous énerve beaucoup. Donc on en fait encore plus et on trouve toujours rien. Donc ce que l'on trouve quand on cherche intellectuellement la vacuité, c'est rien et la frustration. Hein? Donc moi je dis, je ne suis pas le seul, Nagarjuna avant l'a dit, donc m'appuie sur Nagarjuna et dis, commencez par l'autre côté. Commencez pas par le vide, commencez par la forme. D'accord? Vous voyez la forme elle est en mouvement, elle est en changement. Vous êtes contre ça? Détendez-vous. De toute façon, nous allons tous mourir. Donc ce n'est pas la peine de nous inquiéter plus que ça. Ça va se passer. Et tous les jours, quand nous nous réveillons, tiens. Un ami qui me dit, à 60 ans, si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas de douleur quelque part, c'est que tu es probablement mort. Donc, on commence à s'habituer à ça. On se détend. Mais on essaye quand même de soigner le corps, on essaye de prendre soin du corps, on essaye de manger proprement, faire de l'exercice, d'éviter de s'intoxiquer avec du tabac ou des choses comme ça, qui sont des palliatifs, au stress. Hein? C'est une forme de compensation. Bon, je dis ça, mais ça peut être le sucre, ça peut être le shopping, peu importe, ou les livres. Ça, acheter des livres. J'ai une bibliothèque, donc j'existe. Et donc, on commence à se détendre, mais en vivant sainement, on n'est pas dans le déni de la vie, mais on n'est pas dans l'obsession de l'éternité. On n'est pas dans l'obsession de l'immortalité. Et on s'habitue, méditer, on s'habitue progressivement, pas à pas, on laisse glisser des petites choses. Et c'est l'avantage de l'âge, moi je trouve, c'est que mon expérience personnelle, c'est que je ne peux plus tenir autant de choses que je tenais avant. Donc je fais de la sélection. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Ben, ça tombe. Et j'essaye de rester présent à ce qui est faisable. Voilà. Donc là, on commence à voir l'interdépendance. L'interdépendance nous amène à la vacuité. Et la vacuité, c'est-à-dire l'absence de solidification, de permanence, d'immuabilité, d'immutabilité de ce que l'on appelle le soi. Et le soi restant une convention nominale qui regroupe, qui recouvre un tas d'expériences qui sont absolument pas monolithiques. Donc, je pense qu'on peut, comme toutes les peurs, par exemple, quand on est petit, on a peur d'un monstre qui est dans le lit, en dessous le lit, etc. Ben, on va voir, et puis peut-être accompagné d'un parent qui nous dit, allez, on va aller voir en dessous le lit ce qui se passe. Et puis, on se débarrasse progressivement de ces inquiétudes. Et finalement, Gyanu Rinpoche nous disait, pour un yogi, une méditante, la mort n'est pas une cessation, c'est une expérience et une libération. Et donc la mort n'est plus vue comme cette chose terrible qui nous arrive à la fin. C'est une transition comme il y en a tant d'autres dans notre vie. J'ai très peu de souvenirs de ma toute petite enfance, et puis après j'ai l'enfance, après j'ai l'adolescence, et il y a eu énormément de transitions. J'ai été moine pendant 30 ans, depuis 15 ans je suis marié. Je vivais en France, je vis aux États-Unis, je parlais français, maintenant je parle exclusivement anglais. Ce sont des existences. Donc on est déjà mort de nombreuses fois dans cette existence. Donc ce n'est pas la peine d'en faire pendule comtoise de ce moment de la mort. C'est un changement parmi d'autres. Bon, j'arrête, sinon je vais parler pendant 2 heures. Est-ce que...
En fait, il y a deux choses auxquelles je pense. La première, c'est que le changement, d'un côté, quand il est accepté, il est quand on ne nous force pas à changer, enfin que, mais qu'on décide nous-mêmes de changer en allant avec ce flot, et ben, ce changement, il est bénéfique, enfin, il est favorable et on peut surfer comme ça sur le changement. Mais s'il est imposé, si on ne le décide pas nous-mêmes, et ben ça crée de la crispation. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième pensée qui me vient, c'est je vois beaucoup de personnes autour de moi, mais moi-même, je comprends ça, ce sentiment de nostalgie de ce qu'on a été. Par exemple, ah ouais, quand j'avais 20 ans, je faisais ci, je faisais ça, c'était trop bien. Et je vois qu'on a du... Enfin, moi-même, hein, des fois, j'ai du mal. Je repense à des périodes où je vois des gens qui pensent à des périodes et qui n'arrivent pas à lâcher, qui n'arrivent pas justement à danser avec le temps, avec la faillite. Donc, il y a ces deux choses.
Merci. L'imposition de la transformation et de la métamorphose, je pense que la première partie de ton intervention et la deuxième se rejoignent. L'imposition d'un changement et la nostalgie lorsque l'on pense à ce qui était avant, que l'on a perdu. Alors qu'on a perdu parce que les choses changent, que l'on a perdu parce que, par exemple, la société a changé, on ne se retrouve plus. Moi, les discussions avec ma mère, qui a presque 90 ans, et elle ne reconnaît plus son monde. Quand elle voit la France, elle est pas nostalgique Front National, mais elle s'est dit, mais c'est passé où? Les valeurs, la politesse, enfin, des choses comme ça, elle s'y retrouve plus, elle comprend pas. Par exemple, les gens qui arrivent à l'Assemblée nationale en flip-flop avec un t-shirt, la dignité de la responsabilité des élus, etc., elle s'y retrouve pas. Alors, il y a une forme de nostalgie et en même temps, une obligation d'accepter ce qui est parce qu'on ne peut rien faire contre. Il y a un flot énorme qui fait que les choses changent de cette façon. Donc, la nostalgie, c'est revenir dans son esprit sur une image construite d'un moment idéal qui n'a jamais existé. Parce que, effectivement, si je pense à mon adolescence, je pourrais dire, ah oui, mais j'avais la pêche, je pouvais faire des trucs, maintenant je suis fatigué, essoufflé, etc. Mais en même temps, c'était un moment d'ennui profond, je n'avais rien à faire, je vivais dans une cité en banlieue parisienne. Donc, le bon vieux temps, c'est une image qui a été photoshopée, en fait, ça a été vraiment retouché. Et c'est une mémoire sélective, en fait. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis avec ce mouvement. Il y a un mouvement, donc vous connaissez, faites en sorte que l'Amérique soit grande à nouveau. C'est le motto de ce mouvement politique. Et en fait, c'est un ensemble de gens qui rêvent d'une Amérique idéale. Et quand on leur pose la question, à quel moment elle était idéale? Ben, ils ne savent pas trop. Ils vont dire, ah ben, à telle époque ou à telle époque. Mais en fait, ils n'arrivent pas à saisir. C'est juste une construction mentale sur laquelle on s'est fixé. Parce que je pense qu'on n'est pas présent à ce qui se passe dans notre vie et on voudrait retourner à un moment idéal. Moi, je souffre un peu de l'inverse. C'est là, je suis toujours à me demander qu'est-ce qui arrive. Je suis prêt pour ce qui arrive. J'ai envie d'aller vers ce qui arrive. Et j'ai une mémoire pas sélective. Là, j'ai carrément une mémoire. Si on me demande des choses, qu'est-ce que tu as fait il y a 20 ans? J'ai aucune mémoire. Enfin, ça ne m'intéresse pas. C'est passé. Parce que mon expérience, c'est Si quelqu'un ne fait que montrer son CV sur ce qu'il a accompli ou elle a accompli, ben, il n'a pas grand-chose à dire sur ce qu'il fait en ce moment. Et ce qui est important, c'est le moment présent pour moi, parce que c'est vraiment le seul où les choses peuvent être recyclées, modifiées, planifiées, ou en tout cas planter des graines pour que l'arbre dont je vais profiter de l'ombre soit grand dans 20 ans ou 30 ans. Donc c'est le changement imposé est une attaque à ma nostalgie qui est une image composée d'un passé fantasmé qui n'a pas vraiment existé tel qu'on le conçoit dans le moment de nostalgie. Et donc, je me sens, en quelque sorte, spolié de mon passé idéal, alors que dans mon présent, il y a énormément de potentiel et de choses à faire, et que, en fait, je ne suis pas présent à mon présent parce que je suis... Mon présent est encombré du passé. Mon présent est encombré du passé. Le passé, c'est important pour... on parlait de la faillite. Hein. Pour moi, la faillite n'existe vraiment que si, dans le cas d'un échec, on n'a pas tiré une leçon importante et qu'on n'a pas rebondi. Là, c'est qualifié comme faillite. Mais sinon, ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, les choses du passé qui auraient pu être mieux gérées, mieux faites, mais je n'avais pas les moyens de le faire à l'époque, bah, maintenant, je vais me donner les moyens, je vais cultiver, si j'ai pas ces moyens, je vais les cultiver, etc., dans l'instant présent. Gyanur Rinpoche citait un texte qui disait « Si vous voulez savoir ce que vous avez fait dans le passé, regardez qui vous êtes maintenant. Et si vous voulez savoir ce que vous serez demain, regardez ce que vous faites maintenant. » C'est là que ça se passe, ici. Et donc, bon, quand on a demandé à Gyanur Rinpoche qui nous parle de sa vie, pour on écrit sa biographie, il nous a dit, histoire de ma vie, j'ai bu du thé, j'ai mangé de la farine d'orge. Voilà, c'est... Il n'avait aucune envie de... Nous, on voulait savoir, mais lui, c'est passé. C'est passé. Et ce qui est là est pour moi très excitant. C'est aussi quelque chose qui va demander beaucoup de courage et d'engagement. Mais j'ai cité souvent dans les ceux qui ont suivi ou celles qui ont suivi les samedis, j'ai parlé de la Boétie et de son pamphlet sur l'autoservitude. Et dit on se soumet au tyran par peur. Par ahurissement ou abrutissement, on n'arrive pas à penser, ou par intérêt. Donc, lorsque quelque chose nous est imposé, on s'en accorde parce que ça nous apporte un certain nombre d'avantages. Hein. J'étais sous fifre, je suis promu sous chef. Donc, il y a toujours sous, mais ça a un peu mieux. Donc, on a intérêt là au changement. On se soumet au changement parce que on ne veut pas être, on veut pas avoir affaire avec la police. Donc si ça c'est la nouvelle loi, bah oui on fait. Hein. Et puis après, on se soumet au tyran ou ici en l'occurrence le changement du fait de notre ahurissement, c'est-à-dire que on voit pas ce qui se passe, on est emporté quoi. On est dans un glissement de terrain et ça nous embarque et on ne sait pas où on va. Et on se débat et on réagit de façon très, très primaire, très animale quelque part. Et on griffe et on mord. Mais tout ça, c'est un manque de conscience, un manque de... Donc là, quand je dis manque, moi j'entends opportunité de travail. Pas « il me manque ». Voilà ce qui, là, ce sur quoi je, voilà ma planche, voilà ce sur quoi je dois travailler. Et moi, j'ai pas de nostalgie du passé. Une grande part du passé, je m'en souviens même plus. Ça m'intéresse pas vraiment, parce que je suis même pas sûr que ça s'est vraiment passé. Dans le présent, il y a tellement d'incertitudes, puisqu'on est dans cette expérience d'un jeu de l'esprit qui se trompe en permanence lui-même. Donc ce qui apparaît est une apparence. L'apparence est trompeuse. On peut penser qu'effectivement, ça a une solidité. Et comme Hilgard le disait, on a quand même besoin d'avoir un toit, une assurance, être sûr qu'on aura à manger. C'est des besoins fondamentaux à l'intérieur de ce rêve. Mais si on s'éveille de ce rêve, moi, j'ai fait des rêves récurrents comme ça, où je me garais mal dans un rêve. Et donc, je me réveillais avec la peur de voir ma voiture emportée par les services municipaux. Et il me fallait bien 10 minutes pour me convaincre que je n'ai pas de voiture, donc elle n'est pas mal garée. Mais j'avais une voiture pendant le rêve. Là, dans ce contexte-là, j'avais une voiture et effectivement, elle était mal garée. Voilà, donc tout ça, c'est un grand sujet de réflexion, d'observation et puis de familiarisation. Et le succès, ou si on veut parler de succès, il est dans la pratique. Encore et encore, cette familiarisation avec tout ça, et puis commencer à goûter les bienfaits de cette façon de voir, cette philosophie nouvelle.
Par rapport au temps, moi, ce qui me gêne plus, c'est l'avenir. Quand je réfléchissais hier à ce qui me liait, c'était une des choses que je, voilà, qui me, à laquelle je pensais. C'est le souci de l'avenir. Je me sens en quelque sorte asservie à cela, comme si mon présent n'était qu'une préparation de l'avenir. Je n'arrive pas à donner d'ampleur à ce présent ou vraiment toute sa place.
Mon expérience, au regard de l'avenir, c'est que je conçois l'avenir à la lumière de ce que je sais de mon présent. Et donc, en fait, c'est mon présent qui fait un copier-coller, hein, comme sur un texte, hein, on copie, on colle. Et je, quand je vois, par exemple, les jeunes gens là, qui sont là, les scouts, ou des jeunes de cette génération-là, je me dis, ils ont leur avenir devant eux et eux, c'est génial. On y va, on va faire des trucs, etc. Bien sûr, il y a l'environnement qui est en métamorphose, etc. Le système géopolitique qui est au bord de la rupture parce que c'est des vieux systèmes qui ne tiennent plus et qui s'effondrent. Mais eux, ils s'en foutent, ils vivent. Ils sont dans la joie de ce qu'ils ont à faire maintenant. Et ce qu'ils font maintenant n'est pas fait en fonction du futur. Alors bon, peut-être qu'ils ont des plans d'aller à l'école, avoir un diplôme, avoir un job, j'en sais rien. Mais moi, si je reviens en arrière, je vivais pleinement ce moment-là. Bon, à 19 ans, je rencontre Gendun Rinpoche et je me dis, voilà, c'est là, je vais rester. Et on vivait pleinement ce moment-là. Je n'avais pas dans l'idée, je vais faire une carrière de lama. C'était absolument pas dans les plans. Donc, l'enseignement du Bouddha nous parle, par exemple, de l'octuple noble sentier, comme une façon de vivre l'instant, d'avoir une pensée juste, une parole juste, une attitude juste, une concentration, une présence qui soit juste, une méditation. Aussi un établissement dans la nature de l'esprit qui soit juste. Juste, ça veut dire qu'il soit en accord avec la réalité, qu'il soit utile, nourrissant pour soi et pour les autres. Là, on a un mode de vie qui est à la fois bénéfique pour soi-même, parce qu'on vit mieux quand on vit vraiment en accord avec l'octuple noble sentier. Il y a moins de complications. On n'est pas dans les stratégies pour gagner, de tromper en mentant, etc. Moi, je ne peux pas mentir parce que je ne me rappelle plus du mensonge que j'ai dit il y a 2 jours. Alors, ça crée des problèmes. Genre, je préfère dire la vérité, même si ce n'est pas toujours très simple. Mais je crois que, pour faire court, je vais essayer. Si l'on vit justement maintenant, on n'a pas à se préoccuper de demain. On n'a pas à se préoccuper de demain parce que demain est le fruit d'aujourd'hui, sera le fruit d'aujourd'hui. Si on plante un arbre maintenant en étant obsédé par le fruit, en fait, on ne va pas faire attention à l'arbre quelque part. On va être déjà sur le fruit. Le fruit, il n'est pas encore là. Ce qui est important, c'est planter l'arbre. Et Guénon Rinpoché prenait toujours cet exemple de deux personnes qui, le même jour, à la même heure, plantent un arbre. Une personne plante ça dans son terrain personnel, l'autre plante ça dans le terrain communal. Une a l'intention d'avoir des fruits, de pouvoir les vendre, de faire un profit, etc. etc. L'autre, c'est de pouvoir créer pour la communauté un arbre qui produira de l'ombre et des fruits pour tout le monde. Quand on les regarde, au premier jour, ils font exactement la même chose. Ils font un trou, ils mettent du compost, ils plantent un arbre, ils arrosent, et puis après, ils vont faire attention. Mais au fur et à mesure que les choses changent, l'arbre commence à pousser, les branches, les feuilles, on commence à avoir des fleurs, puis on commence à avoir des fruits. Celui qui avait planté l'arbre dans son terrain commence à mettre une barrière autour, commence à faire la garde pour pas qu'on vienne lui piquer ses fruits. Alors que l'autre se détend, se réjouit, invite les amis à contempler le déploiement de la nature et bientôt tous nous allons pouvoir célébrer ça en profitant des fruits de l'arbre. Donc le fruit sera complètement différent parce que l'action du présent est complètement différente. Donc pour moi, l'octuple noble sentier, c'est un mode de vie maintenant. Et bien sûr que les fruits du passé vont venir dans ce maintenant. D'accord? Et donc, à l'aide de l'octuple noble sentier, je vais pouvoir recycler le tout venant du passé. Je vais être capable de faire du compost avec mes névroses du passé. Hein? Parce qu'elles ne vont pas polluer ma pensée, mon action, ma parole, ma concentration, ma méditation, etc. etc. Parce qu'elles seront cultivées de façon à être, d'avoir un système immunitaire supérieur qui pourra transformer le tout venant du passé. Et donc, quand on a compris que l'on peut recycler le tout venant du passé avec l'aide d'un outil très simple comme l'octuple noble sentier, maintenant, on n'a pas à se faire de soucis quant à ce que sera le futur. Parce que franchement, on fait des plans, d'accord? Des plans sur la comète. Ça ne marche pas. Chamarin Poché me dit une fois, mais je ne comprends pas les gens. Ils font des plans, ça ne marche pas. Alors, ils font des plans, puis ça ne marche pas. Puis, ils continuent à faire des plans et ça ne marche pas. Et on fonctionne comme ça. Et en fait, comment est-ce qu'on peut planifier ça? Moi, si à 15 ans, on m'avait dit, tu seras ce que tu es maintenant, etc. Même au début des années 2000, si on m'avait dit, ah bah tu seras marié, tu auras une barbe et tu vivras aux États-Unis. Moi, je suis moine, je suis dans un monastère, le monastère du Karmapa, nous avons une tâche pour sauver l'humanité. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Donc, parfois les gens me disent comment tu vis, etc. Mais je dis, c'est simple, j'essaie que ma parole, ma pensée, mon action, etc., soit vraiment inspirée de l'octuple noble sentier. Ce qui m'arrive du passé, je le travaille à la lumière de cette discipline et je ne m'inquiète pas du futur. Je ne m'inquiète pas du futur parce que le futur, il sera ce qui sera. Si je suis d'accord avec ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si je l'accepte ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si je ne l'accepte pas, je ne peux pas vivre avec. Et donc, je défends mon rêve ou mon fantasme. Ce n'est pas sérieux. Et c'est épuisant. Mais par contre, l'adaptation, c'est, en fait, c'est un peu le darwinisme. C'est finalement la survie de celui, pas qui est le plus fort, mais celui qui s'adapte le mieux. Ce qui reste, c'est les ceux qui vont avec le flot. Oui, tu as le micro?
En fait, j'ai une question par rapport à.
Il faut juste parler en face, c'est tout.
De ne pas se projeter, justement, donc ça, c'est une chose, mais Il faut quand même avoir des plans, il faut quand même avoir des plans, avoir des objectifs. Puis après, on peut très bien se dire, on a des objectifs, on ne les atteint pas, et on fait autre chose. En fait, c'est ça l'adaptabilité et l'impermanence, c'est de se dire que si ça n'a pas, si ça n'a pas, si ça a été un échec, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais il faut quand même avoir des objectifs et ne pas. Comment je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours eu des objectifs, je me suis dit, bah, je les atteins, je les atteins, je les atteins pas, je passe à autre chose. Mais si on n'a pas ça, quoi, c'est aussi ça le futur, de se dire, aujourd'hui, je prépare, je. Enfin, c'est tout. Et j'ai du mal à de faire cette distinction, justement, de ne pas se faire des plans sur la comète. C'est quelque chose, mais il faut quand même avoir des objectifs et de s'y tenir. Moi, si j'ai pas d'objectifs, si et je sais que je suis dans cette période-là où j'ai des problèmes de santé, qui fait que ça me bloque et que je me suis tellement emprisonnée que là, mon corps s'emprisonne. Mais j'ai quand même besoin d'avoir des objectifs. Je peux pas juste dire au présent, là, ici, actuellement, je suis emprisonnée de mon propre corps et je peux ne rien faire. Mais si j'ai pas d'objectifs sur tout ce que je veux faire, c'est la mort pour moi, quoi. Je suis obligée de me dire, ben, plus tard, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis, il y a différentes possibilités. Je ne m'arrête pas à une chose, mais j'ai besoin d'avoir des choix, des possibilités pour le futur.
Merci, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'écris mes objectifs au crayon et pas au stylo. Parce que je peux gommer et réécrire. Parce que, en fait, dans le déroulé, les choses vont changer. Et donc, en fait, voilà, bah, le flot des éléments fait que finalement, la direction que j'avais prise, elle est pas viable ou c'est bouché. Donc, je vais partir ailleurs. Donc, on avance comme ça avec une certaine. Avec un certain objectif. Mais si tu veux, ce que je mets en avant, c'est pas, il ne faut pas avoir d'objectif et simplement vivre là, maintenant, ce qui se fait maintenant, la seconde d'après arrive, etc. On n'a pas à s'occuper. Non. En particulier dans la société dans laquelle nous vivons, c'est peut-être vrai dans ce autre modèle de société, mais dans cette société dans laquelle nous vivons, il y a des besoins de planification. Moi, je suis venu en Europe. Il a quand même fallu quelques temps à l'avance que je sache pourquoi et où j'allais aller et que je prenne un billet d'avion. Là, j'ai un ticket de train pour aller à la prochaine étape. Et puis, voilà, donc j'ai quand même des plans. Je sais que le 3 septembre, normalement, je suis dans un avion à Vienne et je rentre à la maison. Donc, c'est quand même prévu, bien sûr. Mais maintenant, l'avion, il peut peut-être changer. Je peux décider de partir d'ailleurs parce qu'il fait que ce que j'ai déjà fait, parce que normalement, je devais rentrer depuis Genève. Et puis là, finalement, comme on m'invite en Slovaquie, je vais repartir d'Autriche. Donc, hop, on change. Donc, c'est l'adaptation. Mais le point que tu soulèves est vraiment important parce que c'est toute la dynamique du chemin spirituel là qui est en question. Parce qu'on pourrait dire, bon, ben, je suis là. Et puis bon, tout est bien, et puis je vais vivre, je vais gérer tout ce qui arrive maintenant, et je sais, j'ai pas de plan plus loin que ça. En fait, nous, on a un plan quand même, en tant que bouddhiste, il y a un plan majeur qui est quand même d'aller vers l'éveil, pour pouvoir trouver en nous la capacité d'aider les autres à faire leur chemin individuel et personnel vers l'éveil. Donc là, il y a quand même un sacré projet. Hein, c'est pas rien, quoi. Alors. Ça nous conduit à la réflexion sur l'intention comme force motrice. Alors, le mot qu'on traduit par prière, parfois en français, en tibétain, c'est mun-lam. C'est en fait deux mots qui sont conjoints. Mönpa, c'est l'aspiration. Lam, c'est une voix. En fait, si on traduisait littéralement, on dirait une voix d'aspiration. Ou l'aspiration qui devient une voix. La prière, c'est généralement, comme on l'entend, c'est s'adresser à une autorité supérieure pour avoir des avantages. S'il vous plaît, Dieu, faites que je gagne au loto. Ça m'aiderait. Hein? Donc, dans le contexte bouddhiste, c'est pas vraiment la même chose. Il y a plusieurs formes de prière, bien sûr. Mais cette voix en tant qu'aspiration, comment est-ce que je pourrais illustrer ça? Nous vivons, par exemple, dans la bidimensionnalité. D'accord? Ou si on dessine une maison sur une feuille de papier, on dessine un plan et on est en deux dimensions. On n'arrive pas à sortir de la contrainte de la feuille de papier. D'accord? Parce qu'on ne peut pas faire une trois dimensions sur une feuille de papier. Donc, en fait, pour représenter ce qui n'est pas encore dans l'expérience présente sur la feuille de papier en deux dimensions, on a inventé ce qu'on appelle le point de fuite. Et on a inventé, en architecture, par exemple, la perspective cavalière ou la perspective axonométrique. Et donc, on se donne un point de fuite et toutes les lignes du plan en deux dimensions vont aller vers ce point de fuite et on va voir apparaître la 3D dans le 2D. Vous suivez un peu où je veux aller? D'accord. Ben, le chemin d'aspiration, c'est la même chose. Je n'ai aucune idée de ce qu'il éveille. Et pourtant, j'y vais joyeusement. Il y a un mot en vieil anglais qui est codywomple, un verbe. Codywomple, c'est un ancien, vieux anglais. Et j'adore ce mot parce que la définition de codywomple, c'est aller joyeusement, avec détermination, vers un but qui n'est pas encore connu. Et ça résume ma vie. J'ai même fait un t-shirt, codywomple. Les gens me demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dis, voilà, aller joyeusement et résolument en chemin vers un lieu qui n'est pas encore connu. Donc, ça peut paraître contradictoire. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je ne sais pas où, mais j'y vais. L'éveil, bon, bien sûr, on peut le décrire, les deux bienfaits, etc., etc. Il y a mille façons de le décrire. Mais aucun de ces mots qui décrivent l'éveil ne reflète vraiment la réalité de l'éveil. Donc, en fait, il est très difficile de se dire « je vais vers l'éveil » sans vraiment savoir ce que c'est, logiquement. On pourrait dire « c'est idiot ». Mais en même temps, ce qui est important, c'est qu'on crée une ligne de fuite. Pour reprendre la terminologie de l'architecture, qui permet donc une perspective cavalière ou axonométrique, on voit le bâtiment de façon différente. Cette ligne de fuite crée une dynamique entre là où je suis maintenant et le point vers lequel idéalement j'irai sans savoir vraiment ce que c'est. Et j'aime bien le mot ligne de fuite, c'est un peu comme l'horizon. Hein? L'horizon, tout le monde l'a vu, personne n'a marché dessus. L'horizon recule sans arrêt, hein? Parce que l'horizon n'existe pas vraiment. On pourrait dire que ça se rapproche vraiment de l'éveil. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède, que l'on saisit. L'éveil n'est pas une obtention et le samsara n'est pas à être abandonné. Dans notre vie de tous les jours, on a une direction, on veut aller vers un mieux-être, on veut aller vers… alors après, chacun va définir sa ligne de son point de fuite. Et ça va définir la trace, le cap qu'on se donne. Et après, ce qui va être important, ce n'est pas tellement le point de fuite, ce n'est pas tellement le cap ou la trace, ce qui est important, c'est le pas. Mais le pas est rendu possible parce que l'on a introduit la troisième dimension dans la deuxième dimension. Une vie sans perspective est une vie bloquée, qui est passive et qui subit. Et c'est pour ça que développer l'esprit d'éveil comme une aspiration, puis après s'engager comme une application, c'est quelque chose de vital, de crucial sur le chemin de l'éveil. Et je n'ai aucune idée quant à la nature de l'éveil, parce que je dirais par définition, il n'est pas concevable, et par expérience, je n'en ai pas fait l'expérience. Donc pour ces deux raisons, j'avance vers une direction, joyeusement et avec détermination. Et ce qui est important maintenant, c'est le cap et le pas. Le pas est important. Et le pas, on revient donc à l'octuple noble sentier. Qu'est-ce que le pas d'aujourd'hui? Ben, c'est d'avoir une vie éthique, où la parole, le corps et l'esprit sont dans une attitude qui n'est pas violente, agressive et nocive, mais au contraire qui est empreinte de bienveillance et de discernement. Et je ne le fais pas pour avoir une meilleure existence dans la vie future. Hein? Je ne fais pas ça dans l'attente d'une récompense. Je le fais parce qu'il me semble que c'est la chose la plus juste à faire dans l'instant. Et pourquoi est-ce que c'est à mes yeux la chose la plus juste à faire? C'est parce que j'ai vu par expérience que l'agression, le mensonge, l'abus d'autrui génèrent de la souffrance pour l'autre et pour moi-même. Et que j'ai plus envie de ça. J'ai envie de trouver un mode d'être pour moi paisible et simple, et puis bienveillant et accompagnant pour l'autre. Voilà, ça c'est une dynamique. Alors après là-dedans, ça c'est ce que moi j'appelle le méta-projet. D'accord? Le méta-projet, le grand projet. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de projets qui vont s'inscrire. On a envie de, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on a envie d'avoir une famille, on a envie d'avoir des enfants. Voilà, les enfants demandent la maison demande un loyer, enfin du travail, le travail, etc. Les enfants veulent aller à l'école. Donc là, la vie nous apporte des choses à faire. Parce que le projet, c'est d'avoir une famille. Mais la famille, elle arrive à un moment où, par exemple, les enfants s'envolent du nid et la famille n'existe plus vraiment. Donc il y a un grand vide qui se fait. Et donc ce projet-là, il s'est terminé, mais comme il était inscrit dans le méta-projet, c'est pas grave. La même chose pour la carrière, on arrive à la fin de sa carrière professionnelle, on est à la retraite, oh, je travaille plus donc j'existe pas. Mais non, notre carrière, elle était aussi inscrite dans le méta-projet qui était d'être dans un mode d'éthique et de bienveillance et de discernement. Donc on cultive le méta-projet dans tous les projets. Les projets à durée déterminée de notre vie. Ça fait un peu de sens?
Oui. Oui, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec. Je comprends complètement votre métaphore, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à. Pour moi, c'est vraiment une dualité de vivre le moment présent et de. Je dois absolument penser sans cesse à justement ces projets-là parce qu'il y a une organisation, parce qu'il y a des actions à mettre en place pour pouvoir atteindre ces projets. Et en fait, pour moi, c'est une dualité de se dire je dois vivre le moment présent, mais je pense pas sans cesse à l'avenir, mais souvent à l'avenir. Et au final, je suis pas au moment présent, donc je. Mais pour moi, c'est une vraie dualité.
Oui, mais comme toutes les contraintes, il faut apprendre à les gérer. C'est-à-dire qu'on peut travailler en pourcentage, se dire, bon, je vais passer 50% au futur, 50% dans le présent, ou 30-40, enfin, je ne sais pas, peu importe les pourcentages. Mais ne pas se sentir, je crois que le plus important, c'est de ne pas vivre dans la dualité, la dichotomie, parce que ça, c'est générateur de stress et d'angoisse. Donc, on peut avoir un temps pour le futur, un temps pour le présent. Et on peut arriver à gérer les deux très bien. Moi, quand je suis dans une phase active, je suis beaucoup plus dans le futur, puisque je me dis, voilà, il faut que j'aille là, j'ai les textes à préparer, j'ai ceci, cela, etc. Et puis, quand il n'y a pas d'activité, ben je suis plutôt là dans le présent sans avoir trop à me projeter dans le futur. Gyanyun Rinpoche me disait, tu sais, c'est assez simple finalement. Tu es assis et tu laisses ton esprit se reposer en lui-même naturellement. Si quelqu'un frappe à ta porte et te demande quelque chose, tu y réponds. Tu fais de ton mieux, tu vas aider, etc. Quand c'est terminé, tu reviens et tu t'assois. Tu ne crées pas une identité d'actif. Quand il est nécessaire d'être actif, tu le seras. Quand il est possible d'être contemplatif, tu le seras. Le problème de l'hyperactivisme, c'est qu'on a créé un avatar, on a créé une personnalité et que parfois on est actif alors qu'il n'y a rien à faire. Et là, on est comme ça effréné et on est épuisé. On est plus épuisé à gérer la non-action que lorsque l'on est engagé dans une action. S'il y a quelque chose à faire, ben on le fait. S'il n'y a rien à faire, ben c'est bien. Enfin, c'est pareil, on ne le fait pas. On s'assoit, il y a autre chose à faire. On a rendez-vous avec son esprit. Ah, c'est pas mal ça aussi. On reste là et puis on découvre, on s'habitue à luminosité, l'ouverture, la créativité, etc. On voit tous les feux d'artifice des pensées, etc., qui s'élèvent puis qui disparaissent. Et puis, ah, bah, il y a besoin de faire quelque chose. Bah, on y va. On le fait. Et on le fera d'autant mieux parce qu'on le fera avec l'entraînement de la conscience présente dans l'instant. Donc, on sait vraiment à ce que l'on fait. Parce qu'après, si on doit faire des choses, mais qu'on est dans l'après ce qu'on aura fait, on n'est pas très bien dans ce que l'on fait. C'est comme ça, par exemple, à la cuisine, quand on se coupe un doigt. Parce qu'on n'est pas en train d'éplucher ou de tailler la carotte, on est en train de penser à autre chose après. Tout ça, c'est une manière d'entraînement. Il n'y a pas de secret. Il faut le faire, le faire, le faire, le faire. Hein, l'écrivain dramaturge Samuel Beckett disait une chose très intéressante. Trompe-toi, trompe-toi encore, trompe-toi mieux. Il y a un apprentissage dans tout ça.
En fait, du coup, le problème avec les projets, c'est pas d'en faire, c'est juste de les ressasser et que ça devienne obsessionnel dans la tête. C'est juste ça. Et que si on fait un projet, mais qu'après on le lâche, et que du coup on laisse la possibilité que d'autres projets arrivent et de changer, ben ça devient bénéfique. Mais si on est fixé et obsessionnel sur un projet, et que le mental, ben ça.
Là, tout à fait. Le projet en lui-même, c'est une direction. On revient à la même chose. Si l'on pense que nous sommes les gestionnaires du projet et que c'est une réussite ou une faillite personnelle, on va être très, très crispé. Mais si on s'aperçoit que le projet, comme toute chose, est un projet d'intercommunication et d'interdépendance, et qu'il faut que tous les éléments soient rassemblés pour que le projet puisse s'élever comme une expérience que beaucoup de personnes partagent. On n'a pas ce sentiment de faillite lorsqu'il manquait une brique à l'édifice et du coup, ça ne s'est pas rencontré. Et donc, ce n'est pas apparu. Tu vois, on a eu au Bost pendant longtemps, un certain nombre d'entre nous, à la demande de Shammar Rinpoché, le projet de créer une école d'art. Ce qui était vraiment très bien, on a beaucoup travaillé. Et puis finalement, il a manqué quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais il y a eu un manque de volonté, il y a eu des refus, etc. Et puis, les choses sont tombées, les uns et les autres sont partis, la vie les a amenés ailleurs. Ce projet, il n'a jamais vraiment abouti. Alors, on pourrait évidemment se dire, ah, c'est de la faute à qui ce projet, etc. Et puis, Shammar Rinpoché, qui aimait bien toujours aller voir un petit peu où on en était, une des dernières fois que je l'ai rencontré, il me dit, mais c'en est où cette école d'art que je t'avais demandé de faire? Ben, je dis, c'est pas apparu. Mais il voulait voir, bon, je sais pas, ça l'intéressait, il pensait que c'était important, mais en même temps, bon, c'est comme ça. Il voulait voir où j'en étais, moi, de ma réaction. Si j'étais aigri parce que mon projet, d'ailleurs, on m'a beaucoup critiqué en disant que c'était mon projet, alors que moi, je mettais en place ce que Shammar Rinpoché m'avait demandé de faire. Si c'était mon projet, donc j'étais aigri, non. Parce qu'en fait, c'est beaucoup d'arrogance que de penser que nous sommes la personne, l'architecte d'un projet. Quand tu regardes n'importe quoi, il y a de l'inspiration qui peut être donnée, par exemple, par un maître qui va dire, tiens, ce serait bien de faire un centre de retraite, comme le 16e Karmapa l'avait dit. Et donc, voilà, on va dans cette direction-là. Et puis aussi, il y a les 1000 petites mains qui vont contribuer à la réalisation de ce projet. Hein? C'est quand on regarde le réseau nécessaire pour que quoi que ce soit se passe, c'est effarant. Ma mère m'a raconté une fois que, à un moment donné, son père a reçu une lettre de son frère qui était en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il l'invitait à venir travailler avec lui là-bas. Et donc, mes grands-parents auraient tout à fait pu aller en Nouvelle-Calédonie, d'accord? Et donc mon père et ma mère ne seraient jamais rencontrés. Fin de mon histoire. je ne serais pas là en train de vous parler. Peut-être vous seriez là ou vous parliez à quelqu'un d'autre, mais moi, je ne serais pas là. Et heureusement, ma grand-mère a eu peur d'être mangée par les Kanaks et pensait être cannibale. Donc, elle a dit, hors de question qu'on aille s'installer en Calédonie, Nouvelle-Calédonie. Donc, ça ne tient pas à grand-chose. Juste à la peur de ma grand-mère. Je suis là grâce à la peur de ma grand-mère, entre autres. Et quand on commence à regarder le monde, mais c'est merveilleux de voir tout ce qui fait quelque chose et le petit truc qui manque qui fait que ça ne se fait pas. Et ça tient à pas grand-chose. Donc, quand ça apparaît, c'est une merveille. Et quand ça n'apparaît pas, c'est qu'il y avait un manque de mérite, de conditions positives pour que cette chose-là apparaisse. Donc, a posteriori, ce qu'on peut décider de faire, c'est se dire comment est-ce que je peux reconstituer ce manque de façon à ce que dans un projet similaire dans le futur, bah, cet élément-là ne manque pas. Donc, ça motive une action constructive plutôt que de développer de l'aigreur, du ressentiment, de la nostalgie. C'est merveilleux la façon dont le monde, la manifestation apparaît. C'est à la fois merveilleux et effrayant, et en même temps, l'horreur aussi apparaît de la même manière. L'horreur est horrible et merveilleuse.
J'ai à la fois le sourire par rapport à ce que tu viens de dire, là, parce que je viens de cette horreur, ce sort d'année d'horreur. Ce n'est pas une année horribilis, c'est peut-être 10 ans, 12 ans. Et ces 12 années ont été faites de changements brutaux, parfois. Toutes les choses que j'aurais pu imaginer faire ou vivre se sont cassées la figure. Et tout ce que j'avais, tout ce que la vie menait à être confrontée, tout ce que j'avais à rencontrer était là. Et c'était carabiné. Donc, ça a été un travail de lâcher prise malgré toutes les réactions extrêmement violentes que j'ai eues, que j'ai vécues à l'intérieur de moi, puisque j'étais dans l'impuissance totale, dans le fait de subir, de ne plus savoir quoi faire, quoi dire. Et d'une certaine façon, ça m'a appris à lâcher, à comprendre qu'il y a une sagesse derrière l'horreur. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui est plus fort que tout, qui doit arriver, et que c'est à moi de trouver le meilleur moyen pour trouver la posture à la fois psychique, mentale, physique, pour me préserver malgré tout et poser des actes cohérents selon mes valeurs, même si c'est le chaos à l'extérieur. Donc c'était vraiment une machine à une sorte de contrainte inéluctable de transformer ma façon d'agir, de concevoir le monde, de faire des choix conscients et d'essayer de sortir de mes turpitudes. J'en suis pas sortie. Hein. Parce que je vois que je continue à avoir des attachements et que ça a généré de la violence et des peurs. Mais en même temps, j'ai compris que derrière justement tous ces en apparence qui me terrorisaient ou que je trouvais extrêmement morbide ou néfaste, avait un autre versant qui était ça régénère quelque chose dans l'énergie parce que tu es obligé de faire un pas de côté, tu es obligé de te défaire de tout ce que tu as pu projeter. Et ça, c'était vraiment le bénéfice hein, caché. Voilà, ça continue, mais je vois maintenant que c'est plus dans mon esprit qu'à l'extérieur.
Merci, Anne. Merci. Et ce qui est admirable, c'est de voir que tu as trouvé les ressources et le courage en toi pour Je pense qu'aussi à la lumière des enseignements, de te mettre dans une posture différente et donc d'être dans une disposition complètement différente dans la gestion de tout ce qui lève, tout ce qui s'élève en toi et autour de toi, comme une sorte d'excroissance de cet esprit qui projette toutes ces choses. Et voilà, c'est ça que je mets en avant. C'est le progrès qui est accompli par toi en tant qu'individu. Il dit voilà, je n'ai pas le choix. Il faut gérer. Dans l'enseignement de Lojong, il y a un chapitre entier qui traite de la transformation de l'adversité en opportunité d'éveil. C'est vraiment extrêmement important, ça. Parce que sinon, on est broyé, on est effondré. Alors, on est aigri, on est en colère, ou on est abattu, on est détruit, etc. Parce que quelque part, on n'a pas eu la chance, la fortune de rencontrer ces instructions, d'avoir cet éclairage sur la possibilité, même si au début c'est 90% d'écrasement et 10% de victoire, de faire quelque chose avec cette énergie qui nous semble uniquement adverse. Et moi j'illustre ça avec l'aile d'un avion, hein, où si un courant ascendant, on peut être porté, d'accord ? Maintenant, s'il y a un courant descendant et que l'aile est fixe, ben, on va être écrasé. Mais s'il y a un courant descendant et que l'aile sait se poser, un peu différemment, le courant descendant fait qu'on s'élève. Et c'est vraiment de la gestion des flux, la gestion de l'énergie, si on fait du... comme on appelle ça, du delta plane, enfin, ou de comme les avions sans moteur, là, hein, du vol à voile, oui, ou l'avion sans moteur, le planeur, voilà. Mais on regarde beaucoup les vautours, etc., pour prendre les ascendants, etc. Et si on ne sait pas se servir des vents, on peut pas s'élever et on va s'effondrer. Mais c'est pour ça que pour moi, ces enseignements sont tellement précieux, en particulier l'entraînement de l'esprit et ce chapitre sur transformation de l'adversité en tremplin d'éveil. Parce que ce sont des outils qui nous sont donnés. Après, les outils restent des outils. Si ils restent accrochés dans l'atelier, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est des outils qu'il faut utiliser et il faut apprendre les outils. Comme tout outil, on doit apprendre à le maîtriser. Il y a une maîtrise et la différence entre quelqu'un qui saisit un outil pour la première fois et quelqu'un qui a travaillé avec pendant 30 ans, c'est qu'il y a une maîtrise qui vient du savoir-faire. Donc, généreusement, les enseignements sont donnés et après, à nous de nous appliquer. Méditer, ça veut dire se familiariser, c'est répéter l'action encore et encore, sans trop se laisser abattre par les insuccès temporaires, hein, et de dire voilà, remettre sans cesse le métier sur le travail, donc le travail sur le métier. Tu vois, Anne, j'espère que tu le sens, ça, que tu jouis des fruits déjà d'années de travail. Et aussi, ce qui est très très important, dans la conscience que ça ne fait que commencer. Non, mais pas les misères, mais la capacité à... Parce que si on se dit, ça y est, j'y suis arrivé, on baisse les bras, on ne fait plus rien, et puis on retombe dans les habitudes. Donc, il faut rester vigilante et continuer à utiliser les outils, à devenir maîtresse dans l'art du recyclage. Tu passes un doctorat en recyclage.
Je vais quand même ajouter que si je suis là pour en parler aujourd'hui... Oui, pardon.
Il est ouvert.
Voilà, je voulais juste dire, ajouter, parce qu'on l'oublie souvent, c'est que dans le Dharma, on est quand même enseigné par des gens qui ont des capacités que j'appellerais hors normes, voilà, qui ont une vue, qui ont une connaissance qui fait qu'on se perd moins, qu'on est aidé à des moments clés, qu'on ressent la compassion des Bouddhas, que enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et que j'aurais pas trouvé ailleurs. Voilà, ça je voulais le dire. Puis je peux dire merci avec des grandes lettres.
Ben, moi, je vais te remercier aussi parce que tu me fais la transition sur le sujet de cet après-midi. Donc, merci pour ça. Oui, prends le micro, on va te le passer. Ah, le texte. Alors, l'entraînement de l'esprit. L'entraînement de l'esprit, de mémoire, ça doit être le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre traite des recycler l'adversité. Voilà. Je suis pas sûr du chapitre. C'est quatrième, je pense, mais ouais. Oui, s'il y a une question, vas-y.
Je voulais revenir sur la pratique, justement. Par exemple, vous disiez, voilà, on utilise les outils pour la première fois ou après 30 ans et on n'a pas le même usage de l'outil. Et puis, ce qui me semble aussi, pour moi, intéressant dans votre expérience, aujourd'hui, vous êtes très inscrit aussi dans la vie quotidienne, et on m'a même demandé ce matin si vous étiez arrivé en Harley Davidson ou pas. Mais en même temps, vous avez eu une longue pratique aussi monachiale auparavant. Donc, c'est un petit peu comprendre ça au fond. Est-ce qu'il y a dans la manière de pratiquer des choses possible, pas possible, grâce à la vie monachiale ou pas. Quand on est dans une vie quotidienne, il y a beaucoup d'opportunités d'être, d'avoir du mal à renoncer, par exemple, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des conseils sur le chemin pour pas se mentir également, et pour aller au fond de la pratique, et dans cette question également de ces conseils, est-ce que il y a quelque chose de nécessaire, de beaucoup plus monachial, hein, ou pas, hein, vous avez démarré hier en disant il s'agit pas de devenir ermite, voilà. Question au fond des choses, voilà, et conseils sur ce chemin.
Il y a une grande mythologie qui s'est développée autour des retraites de 3 ans. Et franchement, on peut être 3 ans dans une clôture et pas faire grand-chose. Alors que des personnes, par exemple, qui vont, par exemple, une mère qui va élever son enfant, va être amené à développer les 6 paramitas de façon pratique sans échappatoire. C'est-à-dire qu'elle va être obligée d'être généreuse, avoir une vraie discipline, de la patience, de la persévérance, d'être présente et attentive, etc. Et puis avoir une sagesse de mère qui ne se laisse pas embarquer par les demandes de l'enfant. Donc, maintenant, avec le recul, je me dis oui, effectivement, d'avoir des moments de retraite, de retrait. C'est vital. Après, la retraite de 3 ans, ou les longues retraites, peu importe, c'est bien, mais ce n'est pas forcément la seule façon de faire les choses. Mais par contre, ce qui est indispensable, c'est des moments de retrait. Alors après, ça peut se passer par une sorte de décision très claire et consciente dans notre vie, d'aller vers une forme de minimalisme. Hein, puisque tu parlais de la vie monacale, c'est une vie de minimalisme. Hein, lorsqu'on est ordonné moine ou moniale, on a, je crois, ces 12 ou 13 objets qu'on peut posséder, qui sont purement fonctionnels. Une robe, un tapis pour s'asseoir, un tapis pour dormir, un rasoir, un bol pour la nourriture, un filtre pour l'eau, enfin, etc., et une pierre pour affûter le rasoir, enfin, une aiguille et du fil, enfin, c'est vraiment, ça tient dans un petit havresac, ça tient dans pas grand-chose. Hein. Donc, on va vers un minimalisme. On mange un repas par jour parce qu'on passe énormément de temps à faire la cuisine, à préparer, à faire la vaisselle, à gagner l'argent pour aller faire les courses, etc. etc. La société monacale, monastique, vit en symbiose avec la société laïque dans les pays de tradition bouddhiste, où leur fonction, c'est d'être un exemple vivant du bienfait que la pratique de l'enseignement du Bouddha peut apporter, et être aussi un lieu de réconfort pour la société civile laïque dans des moments difficiles de décès, etc., où ils font des prières. Et en échange, eh bien, on leur donne la mesure de leur bol pour vivre ce jour. C'est pas des milliers de cents, hein, c'est pratiquement la nourriture. Donc, il y a eu très longtemps une existence comme ça, symbiotique, entre les deux sociétés qui se rendaient service mutuellement avec des choses différentes. Nous vivons dans une société complètement différente. Donc, c'est à nous d'aller vers un minimalisme, je dirais, une décroissance et un minimalisme accepté, ce qui est tout à fait en plus en phase avec les nécessités de notre société en relation à l'environnement, etc. On ne peut pas continuer à consommer et à produire autant qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, il faut se poser la question, dans ma vie, qu'est-ce qui est, on revient à prisonnier de l'inutile, qu'est-ce qui est superflu? Comment est-ce que je pourrais vivre plus simplement? En tenant compte des besoins, si l'on est engagé dans une vie familiale, les enfants, sont par exemple pas forcément très emballés par mon mode de vie minimaliste et ils veulent avoir ce que les copains à l'école ont. Donc, il faut là faire un peu de management de tout ça. Mais je pense que l'on peut commencer à sérieusement dégager du temps, parce que l'argent, c'est du temps, puisqu'il faut travailler pour gagner cet argent et acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc, on pourrait faire une réflexion globale, un plan, là on revient sur le plan, sur 5 ou 10 ans, pour arriver à vivre de façon, on va dire, confortable et d'assurer les responsabilités familiales si on a, mais qui dégage aussi du temps. Je crois que là, on peut mettre l'accent dans une société qui a vraiment une direction très matérialiste sur l'avoir. Et je pense qu'on doit opérer un changement vers l'être. Hein? Parce que du fait de la confusion, on pense que l'avoir est source de bonheur. Mais en fait, il est source d'aliénation. Il faut le gagner, il faut le maintenir. Moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie sans argent, rien. Une fois, un ami m'a donné 10 francs. Alors, avec 10 francs, je pouvais avoir un café et un croissant, ou je pouvais avoir ceci, je pouvais avoir cela, mais je ne pouvais pas tout avoir. Et donc, après des années d'une vie sans problème, d'un seul coup, ces 10 francs m'ont créé énormément de problèmes, parce que je pouvais avoir plein de choses, mais pas tout. Donc, le désir d'avoir des choses et puis la frustration sont arrivés. Alors, je l'ai mis dans mes mains, j'ai fait le geste de l'offrande de l'univers et je l'ai jeté. Voilà, j'ai dit, puisse cette fortune arriver à tous les êtres et qu'ils soient heureux. Et moi, je m'en suis débarrassé de ces 10 francs misérables qui venaient me polluer ma tranquillité. Mais en même temps, je vivais vraiment en communauté, etc., mais de façon très, très simple. Et donc, puis après, pendant les 30 ans où j'ai été moine, j'ai continué à vivre dans cette simplicité. Et maintenant, même après ça, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est dans la même démarche de simplicité et de frugalité. Donc, on a le luxe d'avoir du temps. Et beaucoup de personnes sont à court de temps parce que le temps a été occupé à créer les moyens d'avoir toutes les choses qui sont souvent des compensations pour un déséquilibre intérieur. Si à l'intérieur on est en déséquilibre, il faut trouver l'équilibre autrement. Et la consommation, c'est à l'évidence une expression du déséquilibre intérieur. C'est un moyen palliatif. Donc, je pense que le projet majeur, si l'on veut avoir plus de temps pour se familiariser avec la réalité de notre esprit, c'est de faire des coupes franches et de commencer à développer une stratégie de minimalisme, de décroissance acceptée. Ça fera du bien à la planète, ça fera, et ça fait beaucoup de bien aussi à nous-mêmes. Je crois que la grande richesse maintenant, c'est le temps. Beaucoup plus que l'avoir, l'être, beaucoup plus grande fortune, meilleure, plus grande fortune que l'avoir. Et en même temps, c'est pour ça que je dis, il y a une sorte de mythologie autour des retraites de 3 ans. Pendant très longtemps, les gens disaient, ah oui, vous avez de la chance, vous faites la retraite de 3 ans, moi j'aimerais bien le faire, etc. Mais je ne peux pas. Et donc, en quelque sorte, on a une espèce de un sentiment d'être un méditant de second ordre. Qu'on n'arrivera pas à l'éveil dans cette vie. Rassurez-vous, on n'arrivera pas à l'éveil dans cette vie. Donc, relax. On vit. Peut-être certains, comme Milarepa, arriveront à l'éveil à une vie, mais bon. C'est quand même l'exemple qui confirme la règle, enfin l'exception qui confirme la règle. Donc se détendre et comme le disait le Karmapa, c'est attachez-vous à devenir une bonne personne, une meilleure personne avec plus de bienveillance, plus de discernement. Et à l'évidence, il faut du temps pour faire ça. Quand on peut avoir le temps, on s'assoit. Lorsque le besoin se fait sentir, on répond. Et on répond en cultivant les 6 paramitas. La générosité, l'éthique, la patience, la persévérance, la pleine conscience et le discernement. Et ça, on peut le faire de façon... C'est d'ailleurs, on appelle ça la bodhicitta appliquée. Donc, ce n'est pas la bodhicitta contemplative, là. C'est la bodhicitta appliquée. Donc, on peut le faire au travers des expériences de vie. Mais, effectivement, c'est... Le temps est une richesse que l'on peut créer, comme on s'est souvent efforcé de créer une richesse matérielle. Oui.
Du coup, si on commence ce chemin en se disant qu'on n'atteindra pas l'éveil dans cette vie, comment on peut l'atteindre en fait, si déjà on n'y croit pas?
Ah, c'est une bonne question. Moi, à 19 ans, je voulais être comme Milarepa, parce que j'ai vu le Karmapa. Le 16e, et il m'a dit inspire-toi de l'exemple de Milarepa, reste avec Gyanen Rinpoche, demande-lui qu'il te donne l'enseignement sur la vie de Milarepa, inspire-toi de son exemple de vie. Donc, moi, à 19 ans, je suis parti dans la campagne autour de Dakpo, j'ai ramassé des pierres dans le fond de la vallée, j'ai fait une petite hutte, j'avais un drap blanc pour faire mon vêtement et 50 francs que m'avait donné ma grand-mère pour acheter du riz. Et là, j'allais rester en retraite jusqu'à l'éveil. Voilà, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais c'est bien de ne pas être sérieux. Il y a un moment, il faut se lancer à fond. Parce que ce que cela m'a permis de faire, c'est de ne pas me perdre en chemin. Quand j'ai dit à Gyanen Rinpoche, j'ai dit vraiment, là, j'ai compris que après avoir étudié le choix et ornement de la libération, et en particulier le chapitre sur le karma, j'ai dit, il n'y a pas d'alternative. Quoi. Il faut vraiment aller sur la voie du dharma à fond. Il m'a dit, c'est bien, et si tu veux vraiment le faire, c'est préférable que tu deviennes moine. Bon, ce n'était pas mon plan, hein, franchement, au début. Hein. Mais en fait, il avait raison, parce qu'à 19 ans, moi, je tombais amoureux toutes les 15 minutes d'une femme différente. Donc... j'aurais très bien pu partir sur une voie de garage, enfin, ou une voie, une vue, une aventure à droite à gauche. Hein. Le mois avant de rencontrer Gyanen Rinpoche, j'ai failli être embauché pour être rechercheur de trésors dans les Caraïbes. Je travaillais sur un chantier naval et il y avait un gars qui avait un remorqueur de haute mer. Ils allaient plonger chercher des épaves pour vendre de l'antiquité. Ils avaient besoin de quelqu'un. Et heureusement, j'étais malade en mer, donc je ne suis pas parti. Sinon, je pourrais être pirate maintenant. Avec un gros anneau dans l'oreille. Donc, voilà, la rencontre avec Gyanen Rinpoche et le Karmapa. Le Karmapa m'a donné une direction pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, j'ai parlé avec Shama Rinpoche, je lui ai dit, mais Karmapa m'a dit d'être comme il n'aurait pas, mais là, moi, je gère le monastère, je suis un business moine, je fais que ça, je suis plus souvent à la banque et en réunion que sur mon coussin. J'ai dit, c'est un peu comme Marpa, quoi, qui était toujours en train de bosser dans sa ferme. Marpa, il prend un petit moment et puis il me dit, si on peut vraiment être comme Marpa, c'est mieux. Et voilà, c'est par petites touches, les choses changent. Je n'ai pas perdu en moi l'aspiration à l'éveil, mais il est devenu moins obsessif. L'aspiration est moins obsessive. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'est l'éveil. Si ça arrive, parce que c'est quelque chose qui arrive, ben ça arrivera. Si ce n'est pas quelque chose qui arrive et qu'à un moment, je fais « Ah ah, quelle blague !» Ben voilà, ça sera la fin de mon chemin. Maintenant, je ne suis pas persuadé que l'éveil, c'est la fin du chemin. Je pense que l'activité du Bouddha Shakyamuni, elle ne s'arrête pas sous l'arbre de la Bodhi ou à Kushinagara quand il a quitté son corps. Seulement, on nous raconte cette histoire jusque-là parce qu'après, c'est inconcevable. Donc, ce n'est même pas la peine de nous raconter la suite. Puisque... Donc, c'est la ligne de fuite, l'éveil. Mais j'arrive maintenant en me disant, je vais être raisonnable. Un peu à l'image de Gyanun Rinpoche qui un jour vient un peu inquiet dans le centre de retraite. Et puis, on était donc après le repas, comme il faisait pratiquement tous les jours, il venait nous parler. Puis il dit, vous n'avez pas peur de mourir? Et nous, non, on ira, on a les yidam, la réalisation, les machins, la transmutation. Moi, j'ai vraiment peur de mourir. Hein. Vous n'avez pas peur de mourir? Et d'un seul coup, il nous fait peur, parce que on se dit, si lui, il a peur. Tu vois, c'est quand, lorsque le pape est mort, on a appelé les catholiques à prier. Donc, s'il faut prier pour le pape, tu vois, normalement, si quelqu'un va bien, c'est lui, quoi. Hein. Il a une connexion directe. Et donc, si Gyanon Rinpoche a peur de la mort, peut-être que j'aurais peut-être moi posé la question, sérieusement. Et lui dit, mais moi, tous les jours, je fais des souhaits pour renaître en Dewachen, etc., etc. Et alors, je ne sais toujours pas, à ce jour, si... il nous a baladé pour ou si vraiment il a vraiment peur. Peut-être les deux. Peut-être il y a une prise de conscience que finalement là, la mort arrive et il faut se préparer quoi. Donc il y a une espèce d'humilité parce que nous on était partis sur oui nous les yogis la transcendance, on fera le grand transfert du Mahamudra dans la nature essentielle de l'esprit. Et puis d'un seul coup on a celui qui est notre exemple qui dit Pouette, pouette. Pas vous? Et là, donc, on a rajouté la prière de Dewachen en fin de journée, quoi. Mais il y a une humilité, si tu veux. Je n'ai pas perdu cette volonté, mais aussi, je me connais mieux et c'est moins une obsession. Je l'ai dit d'ailleurs dans un enseignement une fois à Dakpo et ça n'a pas été bien compris, je pense. Je dis, à mon sens, il y a un moment où le bodhisattva, il ne s'inquiète plus vraiment de l'éveil. Parce que ce qui est important, c'est l'activité de Bodhisattva et que l'éveil arrivera au moment où il devra arriver dans l'élan du Bodhisattva, etc. Et à la pause, il y a un garçon qui est venu me voir en disant « Oui, mais tu devrais relire le sutra de l'entrée à Sri Lanka parce que le Bouddha dit « Les Bodhisattvas veulent atteindre l'éveil ». Oui, non, mais je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Bien sûr, ils veulent atteindre l'éveil, mais ce n'est plus une obsession. Alors, il y a une grande différence entre l'allant et l'obsession. L'allant, on y va. L'obsession, c'est qu'on voudrait déjà y être. Et ça crée beaucoup de problèmes sur le chemin. Mais Milarepa a montré que c'était possible. Donc, ça reste possible. Si Milarepa te parle et t'inspire, ben, vas-y. La route est ouverte. Les moyens sont disponibles.
Il n'y a pas que Milarepa.
Non.
Il y a, par exemple, je sais qu'on j'ai lu les 84 Mahasiddhas et j'ai vu que chaque personne atteint l'éveil avec ses propres capacités. Et donc, si on essaie de se fixer sur Milarepa, ben, c'est sûr que ça ne colle pas avec nous-mêmes. Donc, il faut...
Milarepa, c'est l'exemple de la dévotion. Les Mahasiddhas étaient tous des professionnels. Enfin, certains n'étaient pas vraiment des professionnels. Il y en avait un qui était paresseux. Il y en a un qui mangeait tout le temps. C'était glouton. Et celui qui était paresseux, il était tellement paresseux qu'il ne voulait pas bouger pour aller chercher à manger. Donc, il y a des caractères quand même dans ces 84 Mahasiddhas. Mais c'est vrai qu'ils ont accepté leur spécificité. Ils ont accepté leur humanité et ils en ont fait un moyen unique et personnel grâce aux instructions qu'ils ont reçues de leur maître, de progrès spirituel. Donc, il y a mille façons de faire. Et la tienne va s'imposer progressivement. Et tu verras d'ici à 20 ans, 30 ans, etc., ta façon d'aller vers l'éveil deviendra de plus en plus claire et très personnelle. Et la vie va t'aider à trouver ça. Mais bon, quand on est jeune, il faut y aller. Il faut avoir envie d'y aller, quoi. Et puis après ça se définit un peu plus clairement. Bon, on va aller manger. C'est bien beau tout ça, mais il faut quand même manger. Allez, partageons les qualités. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception, en cet état, puissions-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan du possible, ce qu'hier puissions-nous délivrer. Merci beaucoup.
Merci.
Ben, rendez-vous, je ne sais pas trop quand, hein. 19h30. Au revoir les amis en ligne.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée
à vous toutes et tous.
Merci. Bonne journée.